Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, le livre des psaumes et le psaume 102. Avec les vacances scolaires qui arrivent, les départs des uns et des autres, on va faire une coupure dans notre étude de la lettre aux Hébreux avant de commencer une nouvelle section. Et donc ce matin, nous allons regarder le psaume 102. Voici donc la parole de Dieu. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil, et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent, et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu du pain, et je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur. Car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité. Et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel. Et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront, et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Et c'est la parole de Dieu. Vous le savez sans doute, il y a plusieurs psaumes dans le livre des psaumes qui sont décrits comme des psaumes messianiques, c'est-à-dire qui parlent du Messie qui est à venir à l'heure où les psaumes ont été écrits. Et quand les experts identifient les psaumes messianiques, ce psaume est souvent oublié. Parmi les psaumes les plus souvent considérés comme messianiques est le psaume 22, qui est cité par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Psaume 22, verset 1, dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume 118, verset 22, dit du Seigneur Jésus-Christ « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Et l'apôtre Pierre a expliqué la résurrection du Seigneur Jésus en acte 2, verset 27, comme l'accomplissement du psaume 16. « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Et le psaume 102 fait partie de ces psaumes qui parlent du Seigneur Jésus-Christ. On le sait, parce qu'on l'a vu il n'y a pas tellement longtemps. Dans Hébreux chapitre 1, les versets 10 et 12 vont citer la fin de ce psaume. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Et dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1, le message de ce psaume a un accent théologique, parce que l'auteur veut démontrer, veut prouver la suprématie du Seigneur Jésus-Christ sur les anges. Mais dans le cadre original, le psalmiste ici a saisi ces mêmes vérités comme une source d'espérance au milieu d'une situation désespérée. Sa confiance en Dieu lui a permis de surmonter sa terrible détresse, de transformer sa prière en un modèle d'intercession. Mais le premier point que l'on va mettre en avant, c'est cette lamentation intense avec laquelle le psalmiste commence ce psaume. Une lamentation à cause de la douleur, la souffrance. Et cette lamentation peut être comparée aux prières désespérées de Job. Vous connaissez l'histoire. Satan a demandé à Dieu la permission d'affliger Job dans tous les domaines de sa vie, en frappant sa famille, en frappant sa richesse, en frappant sa santé. Et en Job chapitre 3, Job s'effondre dans une lamentation très pathétique. Job 3 verset 24, « Mes soupirs sont ma nourriture, mes cris se répandent comme l'eau. » Et l'auteur du psaume 102 est presque autant affligé dans les versets 2 et 3. « Éternel, écoute ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi, ne me cache pas ta face. » Au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Dans la poésie hébraïque, il y a souvent l'utilisation d'un parallélisme. La deuxième ligne va élaborer ou renforcer la première. Et ici, c'est une répétition qui vient exprimer l'urgence de la requête. Le même appel est lancé, répété encore et encore en utilisant une variété d'expressions. Éternel, écoute ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de m'exaucer. Il ne s'agit pas simplement de réciter ou de lire de manière machinale des prières formelles, écrites, mais c'est une lamentation passionnée, intense, qui vient du profond du cœur, qui vient du désespoir. Et la franchise du psalmiste nous rappelle que les croyants, les chrétiens, même aujourd'hui, peuvent souffrir de terribles afflictions, et que Dieu nous invite à suivre l'exemple du psalmiste, à lui ouvrir notre cœur, avec audace, avec liberté, avec franchise. Le titre de ce psaume décrit comme la prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu, qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Il vient répandre sa plainte. Les versets 4 à 12 vont nous donner les détails, alors que le psalmiste dépeint ce qui le frappe, à la fois dans son corps, mais aussi dans son âme. La première chose à souligner, c'est que son affliction met sa mortalité devant ses yeux. De sorte que l'auteur redoute la fin prochaine de sa vie. Verset 4. « Car mes jours s'évanouissent en fumée. Mes os sont enflammés comme un tison. » Dans la chaleur de sa souffrance, sa vie se flétrit. Il sent que ses os vont bientôt être réduits en cendres. Et nous savons tous par expérience, plus nous avançons dans l'âge, nous aussi, on sait que même en tant que croyants, nos corps vont s'affaiblir. Et nous trouvons un réconfort dans la méditation d'un psaume comme celui-ci. Le psalmiste rajoute, verset 5, « Mon cœur est frappé, il se dessèche comme l'herbe. » Il est tellement affligé qu'il a perdu même l'appétit, j'oublie même de manger mon pain. Son affliction lui rappelle sa mortalité. Deuxièmement, cet homme affligé qui ressent sa mortalité à cause de l'intense maladie dont il souffre. Il dit au verset 6, « Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. » Il n'est plus que chair et os. Avec ses muscles détériorés, il ne peut que s'allonger, que gémir. On pourrait penser à quelqu'un, un croyant, qui a subi un accident vasculaire cérébral ou même un cancer, allongé sur le lit, allongé sur un lit d'hôpital. Il se sent comme l'ombre de lui-même. Troisièmement, alors qu'il déplore sa maladie, il déplore que sa maladie l'ait contraint à l'isolement. Versets 7 et 8. « Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil, je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. » L'un des grands besoins de ceux qui connaissent la maladie, qui traversent la maladie, c'est la compagnie. C'est pour ça que les membres de la famille veillent souvent à tour de rôle sur les malades. Mais dans les temps anciens, les grandes maladies nécessitaient souvent une quarantaine, un isolement, comme on a pu le connaître il n'y a pas si longtemps que cela avec la Covid. Le psalmiste se voit comme une chouette solitaire qui hurle sa détresse, ou comme un moineau qui est perché, qui est effrayé. Et c'est par souci d'un tel isolement que le Seigneur Jésus-Christ a loué le ministère de la visite aux malades. Quand il dit en Matthieu 25, 36, « J'étais malade et vous m'avez rendu visite. » Dans le monde de l'Ancien Testament, la maladie intense était souvent considérée comme une punition divine pour le péché. L'une des pires frustrations que Job a connues était la suggestion de la part de ses amis que Job avait dû faire quelque chose pour mériter son terrible sort. Des telles paroles ne sont guère d'un réconfort pour les croyants affligés. C'est vrai que Job a appelé ses soi-disant amis des consolateurs fâcheux, ou d'autres versions disent des consolateurs pénibles, Job 16, verset 2. On devrait nous aussi être prudents pour éviter de telles déclarations légalistes, à moins qu'une relation claire ne puisse être tracée entre l'affliction et le péché. Mais même dans ce cas, des mots durs ne feront qu'ajouter à la souffrance. Quatrièmement, dans le cas du psalmiste, ce sont ses ennemis qui l'affligent en se moquant. Verset 9, « Chaque jour, mes ennemis m'outragent. C'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. » On peut penser à un chrétien qui a cherché à honorer le Seigneur Jésus-Christ dans une famille incrédule, ou qui a rendu témoignage à l'Évangile dans un lieu de travail qui est impie. Quand vient l'affliction, les adversaires vont se moquer de lui pour sa confiance en Dieu qu'ils jugent être mal placée. Certains vont se moquer de lui en disant « Mais regarde ce que ta religion t'a apporté ». D'autres vont dire « Pendant tout ce temps, tu pensais qu'une divinité veillait sur toi ». Alors dans les jours plus forts, le chrétien avait des réponses prêtes venant de l'Écriture, venant de l'expérience pour contrer une telle dérision. Mais allongé dans la maladie, affaibli, déprimé, le croyant ne peut que souffrir de ces pics de la part des ennemis. Et cinquièmement, le psalmiste souffre sous le soupçon que ses moqueurs pourraient avoir raison. Sa souffrance, son isolement ses tourments le laissent perplexe quant à sa relation avec Dieu. Le commentateur le résume en disant « La coupe la plus cruelle est l'implication spirituelle de sa souffrance. » Le psalmiste prie, verset 10, « Je mange la poussière au lieu du pain. Je mêle mes larmes, des larmes à ma boisson à cause de ta fureur, de ta colère et de ta fureur. » Il sent que Dieu a dû le rejeter, a dû le chasser, car tu m'as soulevé et jeté au loin. C'est comme si ces anciennes bénédictions avaient été données par Dieu qui le soulevait pour le jeter d'autant plus violemment. Et il sent sa vie glisser dans les ténèbres, dans la mort, verset 12. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Un commentateur le dit ainsi, l'ingrédient le plus tranchant dans la détresse des croyants, c'est le sens de l'indignation de Dieu. Le psalmiste sait qu'il est pécheur. Il sait que Dieu est saint. Et il conclut sa lamentation en s'imaginant assis sur un tas de cendres comme un homme qui a été maudit par Dieu. Jusqu'à ce point, le psalmiste fournit l'exemple le plus pitoyable d'un croyant qui a été submergé par des circonstances difficiles. Mais à partir du verset 13, le psaume devient un exemple suprême d'optimisme dans la prière. Qu'est-ce qui explique cette reprise? Qu'est-ce qui explique ce revirement remarquable? La réponse, c'est que le psalmiste enlève son esprit de ses afflictions et commence à réfléchir, à méditer sur ce qu'il sait de Dieu. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Et c'est le deuxième point, un rebond spirituel. Le psaume 102 nous rappelle qu'au milieu des ténèbres, nos cœurs feront l'expérience de la lumière en méditant sur Dieu et sur ses attributs glorieux. C'est pour cette raison que le meilleur conseil que l'on peut donner à un croyant qui est abattu, c'est un rappel de se tourner vers la parole de Dieu, vers la révélation de Dieu. L'un des meilleurs ministères que l'on peut offrir aux croyants qui souffrent, c'est de lire les Écritures, de les encourager avec les promesses de Dieu. Souvent, un croyant déprimé devrait arrêter de lire des livres et des articles au sujet de la dépression ou au sujet d'autres maux, et plutôt lire du matériel de dévotion qui met en évidence les attributs glorieux de Dieu. Vous trouvez des exemples dans l'Ancien Testament, de Jonathan qui va encourager David quand David était fatigué, désespéré par l'attitude du roi Saül. Jonathan est allé vers David, il a fortifié sa confiance en Dieu. Et nous aussi, nous avons besoin de nous rappeler les promesses de Dieu. Nous avons besoin de nous rappeler qui est Dieu. Quel est le témoignage qu'il nous a laissé dans sa parole pour être réconforté, pour réconforter une âme qui est abattue. Il y a trois grandes vérités sur Dieu qui ont amené le psalmiste à se retourner, à faire demi-tour. La première, c'est l'éternité de Dieu. Verset 13. « Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. » Un commentateur dit ceci, « Dans les versets précédents, le psalmiste a décrit son état de fragilité et de déperdition. Il est comme une fumée qui s'évanouit. Ah ! Mais il a un Dieu qui n'est pas du tout comme cela. Il est le Dieu éternel, immuable, et c'est Dieu en qui il a confiance. » Ce n'est pas seulement que Dieu est immortel, mais que les promesses de sa parole ne peuvent pas échouer à la lumière de son éternité. Dieu est éternel, mais les promesses qu'il a faites sont aussi éternelles. La déclaration que l'on a dans notre version est ta mémoire, peut-être rendue, comme le dit Jean Calvin, le mémorial de toi, de génération en génération. Et l'idée est que Dieu nous a rendu témoignage de son dessein d'alliance pour notre salut. Puisqu'il est éternel, ce témoignage, cette alliance ne peuvent pas échouer. Et Jean Calvin nous console quand il dit « Nous sommes comme de l'herbe desséchée. Nous nous décomposons à chaque instant. Nous ne sommes pas loin de la mort. Oui, plutôt, nous sommes, pour ainsi dire, déjà dans la tombe. Mais puisque toi, ô Dieu, tu as fait une alliance avec nous par laquelle tu as promis de protéger et de défendre ton propre peuple, et tu t'es amené dans une relation gracieuse avec nous, nous donnant la pleine assurance que tu habiteras toujours au milieu de nous. Au lieu de décourager, nous devons être de bon courage. Et bien que nous ne puissions ne voir que des motifs de désespoir si nous dépendons de nous-mêmes, nous devons néanmoins élever nos esprits vers le trône céleste, duquel tu étendras enfin la main pour nous aider. » L'éternité de Dieu, non seulement dans sa personne, mais aussi dans les promesses, dans son alliance et dans tout ce qu'il nous a donné en Christ. La deuxième vérité qui est unie à l'éternité de Dieu, c'est la souveraineté du Seigneur. Toujours en verset 13, « Mais toi, éternel, tu règnes à perpétuité. » Dieu règne toujours. Il est toujours maître de toutes choses. Puisqu'il a décrété toutes choses, qu'il a l'autorité souveraine pour mettre en œuvre sa volonté. Nos afflictions ne sont pas aléatoires, ce n'est pas par hasard. Elles ne sont pas sans but. Il semble que le psalmiste vivait pendant les temps sombres de l'exil babylonien d'Israël, de sorte que son affliction personnelle a été jointe à la tragédie de la nation. Mais Dieu avait donné des assurances de son dessein souverain, même dans un si grand jugement. Il avait chargé le prophète Jérémie, par exemple, d'envoyer une lettre aux exilés avec les paroles qui, aujourd'hui encore, vont encourager les croyants qui souffrent. Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, dans nos afflictions, le croyant place son espérance dans le même Dieu souverain et éternel, afin que les épreuves stimulent notre vie de prière, renforcent notre foi. Dieu est souverain, il est éternel, il est souverain. Et le troisième attribut de Dieu est sa miséricorde, verset 14. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Le Seigneur a eu prouvé sa miséricorde aux croyants en envoyant son propre Fils pour porter nos péchés à la croix de Golgotha. L'apôtre Paul, en Romains 8, verset 32, raisonne de cette manière. Lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le Père ne permettra pas que l'œuvre expiatoire de son Fils ait été vaine. Il sera fidèle dans sa miséricorde pour assurer notre salut éternel. Et le verset 14 conclut, « Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. » Puisque le psalmiste se réfère à la pitié de Dieu sur Sion, certains pensent que cette affirmation fait référence à la révélation de Dieu que l'exil d'Israël prendrait fin après 70 ans. Mais on ne sait pas généralement combien de temps Dieu a l'intention de nous faire languir. Mais on sait que dans sa miséricorde, notre affliction a une fin qui est déjà déterminée, qui est déjà fixée. Même si, Pour certains, c'est dans une mort qui nous conduit à la bénédiction éternelle. Et voilà la consolation, le réconfort que le psalmiste a reçu quand il a réfléchi sur la nature, sur les attributs de Dieu, sur le caractère de Dieu. Il est éternel, il est souverain et il est miséricordieux. Combien il est merveilleux que lorsque on ne peut pas voir un but pour notre souffrance, on sait que Dieu a un but, non seulement pour sa propre gloire, mais aussi à cause de sa miséricorde, pour notre bien ultime. Et puisqu'il est éternel et souverain, qu'il règne à perpétuité, ses desseins bienveillants pour nous sont certains d'être accomplis. J'ai mentionné que l'un des meilleurs ministères pour les malades, c'est de lire les Écritures, de les diriger vers une saine théologie. Mais une autre manière d'encourager un malade ou un croyant qui est malade, c'est l'exhorter à la prière et surtout à la prière d'intercession. Les chrétiens qui sont atteints d'une longue maladie se sentent souvent inutiles, se sentent souvent isolés de la vie de l'Église. Et bien qu'ils ne puissent pas assister au culte ou participer à la vie de l'Église, ils ont une occasion idéale de s'engager dans le ministère de la prière et de la prière d'intercession. Et le troisième point que nous donne l'auteur, c'est un modèle de prière d'intercession. Dans les versets 15 à 23, le psalmiste s'engage dans cette prière modèle de supplication en attendant son propre rétablissement. Son cœur a été relevé du tas de cendres par la connaissance de Dieu, par la méditation sur les attributs de Dieu. Et maintenant, il est libre de consacrer sa solitude à la prière pour les causes qui lui sont chères. Et sa première préoccupation, elle est pour l'Église. Il a déjà fait confiance à la miséricorde de Dieu pour Sion. Maintenant, il fait appel à sa restauration, versets 15 et à 18. « Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, tous les rois de la terre, ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière des misérables. Il ne dédaigne pas sa prière. » Et le psalmiste voit un parallèle entre son humble état et l'état de Jérusalem. Aujourd'hui, les chrétiens ont un grand besoin de prier pour l'Église, d'autant plus que l'Église est très marginalisée dans notre société occidentale. On doit prier pour la fidélité de la prédication, pour la piété des responsables, pour le zèle du peuple, pour la sainteté, pour la conversion des membres de la famille, pour que l'Église soit fortifiée en esprit et aussi en nombre. Et les chrétiens malades ont une occasion particulière de prier pour l'Église. Leur ministère de supplication a une grande valeur. Le psalmiste a assumé la dévotion des croyants, même pour la brique et le mortier de l'édifice du temple, verset 15, « Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. » Et on a un parallèle merveilleux avec ce que le Seigneur Jésus-Christ, le dessein du Seigneur Jésus-Christ, qui dit « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église, les portes du séjour du mort ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 18. Les prières des malades, des croyants malades, qui sont parfois loin de la vie quotidienne de l'Église. Leurs prières sont précieuses. Leurs prières pour l'Église sont précieuses. Deuxièmement, le psalmiste prie pour l'évangélisation, verset 16. « Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, tous les rois de la terre, ta gloire. » Quand l'auteur s'est tourné vers Dieu, quand il sait, quand elle a médité sur les attributs de Dieu, cela a transformé l'apitoiement de soi en compassion pour les autres. Et le psalmiste traite l'évangélisation comme le fruit de la restauration de l'Église par Dieu. C'est dans l'Église que la plupart des croyants ont entendu la bonne nouvelle pour la première fois. Et en priant pour l'évangélisation, cela nous implique, nous aussi, à faire connaître ce merveilleux message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et quand ils sont dans les hôpitaux, les croyants malades ont une occasion en or de partager l'Évangile avec les autres malades, avec le personnel médical. La troisième préoccupation du psalmiste, ce sont les générations futures. Versets 19 à 20, « Que cela soit écrit pour la génération future, que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. » Loin de voir ses souffrances comme inutiles, le psalmiste note le lien entre son expérience et les générations futures. Et il demande à Dieu de laisser un témoignage aux croyants à venir. Peu de motifs vont autant nous inspirer à prier, avoir un témoignage audacieux qu'un amour pour les enfants, pour les petits-enfants de nos familles, pour les générations qui vont suivre, un désir fervent pour qu'ils soient sauvés. Et la quatrième chose pour laquelle le psalmiste prie, c'est l'Église persécutée. Pour écouter les gémissements, verset 21, les gémissements des captifs et délivrer ceux qui vont périr. On ne sait pas précisément qui le psalmiste avait à l'esprit, bien que cela puisse être les Juifs qui languissaient à Babylone. Mais nous, aujourd'hui, nous ne devons jamais oublier la souffrance de croyants dans le monde qui sont affligés à cause de leur foi, à cause de leur bravoure à défendre le Seigneur Jésus-Christ. Dans nos souffrances, souvenons-nous de ceux dont la souffrance est beaucoup plus longue, beaucoup plus intense. Et amenons leur situation devant le trône de la grâce en intercédant pour que Dieu ait pitié d'eux, qu'ils permettent que leur souffrance ne soit pas trop longue. Si on devait citer un thème unificateur des intercessions du psalmiste, ce serait la gloire de Dieu dans le salut de son peuple. Versets 22 et 23, « Afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. » Le psalmiste sait que l'histoire va se conclure avec les saints rassemblés de toute tribu, de toute langue, de toute nation dans la ville éternelle de Dieu. Il est ravi de réaliser que parmi les grandes louanges qui résonneront des lèvres des anges et avec les rachetés, il y aura une commémoration de la délivrance qu'il aura reçue, de la restauration de l'Église pour laquelle il aura prié. Un exemple de l'esprit du psalmiste dans la prière a été donné par un auteur que l'on connaît, qui a écrit plusieurs livres qui ont été traduits, John Piper, lorsqu'il a été traité pour un cancer de la prostate en 2006. Et à la veille de son opération, il a écrit un livret intitulé « Ne gaspillez pas votre cancer ». Je ne sais pas, j'ai cherché, je n'ai pas vu une traduction en français, donc c'est ma traduction personnelle. Et dans ce livret, il a exhorté les autres malades à accepter la maladie comme un don de Dieu. Ce n'est pas une malédiction, c'est une occasion de glorifier le Seigneur par la foi. Et plusieurs de ces méditations comprennent les titres suivants. « Vous gaspillerez votre cancer si vous ne croyez pas que Dieu l'a créé pour vous. » Vous allez gaspiller votre cancer si vous refusez de penser à la mort. Vous gaspillerez votre cancer si vous prenez trop de temps à lire sur le cancer plutôt que sur Dieu. Et vous gaspillerez votre cancer si vous n'utilisez pas pour le témoignage de la vérité et de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et Piper conclut, il dit, c'est une opportunité de témoigner. Christ est indéfiniment digne. C'est une opportunité en or de montrer qu'il est plus digne que la vie. Ne le gaspillez pas. Et on peut étendre ce principe à toute forme d'affliction, toute forme de souffrance. Dieu nous donne des occasions. Ne les gaspillons pas. Utilisons notre souffrance, même au milieu de la peur, même au milieu de l'anxiété, des incertitudes. Utilisons cela pour rendre témoignage à notre Dieu qui est plein de miséricorde, afin qu'il soit loué dans l'Église et dans le monde. Et finalement, le psalmiste, dans la dernière strophe, reprend sa lamentation initiale. Il déplore que sa santé ait été brisée au milieu de sa vie, qu'il n'atteigne pas une durée de vie normale. Verset 24, « Il a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours. » Sa réponse est semblable à la réponse du roi Ézéchias, qui a appris du prophète Ésaïe que sa vie allait bientôt prendre fin. Et il a commencé à supplier le Seigneur de lui accorder une prolongation. Et de la même manière, le psalmiste crie, verset 25, je dis, « Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. » Mais encore une fois, il répond à son inquiétude en rappelant la nature éternelle de Dieu. « Toi, dont les années durent éternellement. » Verset 25. Dans certaines des lignes poétiques les plus inspirantes de la Bible, le psalmiste explique sa logique. On peut l'imaginer en train de se lever de son lit d'affliction pour sortir, pour voir la nuit étoilée, en réalisant que Dieu est plus grand, qu'il est plus endurant que l'étoile la plus brillante. La pensée de l'éternité de Dieu vient raviver son espérance. Dieu a existé avant la création. Il a utilisé ses propres mains pour former ce vaste univers. Verset 26, « Tu as anciennement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » L'univers, endurant tel qu'il est, n'en a pas moins une durée de vie limitée. De sorte que le jour viendra où les étoiles s'éteindront, où Dieu enroulera le cosmos comme des vêtements délavés. Verset 27, « Ils périront. » Mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Ce qui émane de la nature éternelle de Dieu, c'est son attribut d'immuabilité. Il ne change pas, de sorte que le dessein, les promesses de Dieu ne peuvent pas et ne manqueront jamais. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et la conclusion sur laquelle le psaume se termine, c'est que le peuple de Dieu jouit de la sécurité et de la paix dans le Seigneur éternel et immuable. Verset 29, « Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. » En temps de détresse, les croyants s'inquiètent de ce qui arrivera à leurs enfants. Mais l'Église de tous les âges demeure en sécurité dans le Seigneur Dieu éternel. Longtemps après l'expiration des galaxies lointaines, toutes les promesses de Dieu seront encore fermes. Un commentateur écrit que la race des croyants continue sans cesse. Elle n'est ni exterminée, ni vaincue, mais elle est plutôt établie sans fin devant le Seigneur. Puisque Dieu est immuable dans sa nature et dans son dessein, de sorte que même l'effondrement de l'univers ne peut altérer sa personne ou ses plans, le psalmiste peut reposer son cœur en paix, avec louange devant le Seigneur. Et nous suivons son exemple en nous tournant vers le Nouveau Testament, où nous trouvons ces vérités appliquées non seulement à Dieu le Père, mais aussi à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Cela nous rappelle que l'Évangile n'est pas une pensée après coup dans le plan de Dieu. Ce n'est pas une disposition temporaire qui pourrait un jour échouer. L'auteur de la lettre aux Hébreux, qui cite ce dernier passage au chapitre 1, dira au chapitre 13 de sa lettre, verset 8, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et au chapitre 7, verset 25, il nous rappelle que parce que le Seigneur Jésus-Christ vit et règne pour toujours, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Quel est le besoin de notre âme dans le temps ou dans l'éternité qui ne peut être satisfait en Christ? Est-ce qu'on a besoin de pardon pour nos péchés? Alors regardons le Seigneur Jésus-Christ exalté, qui porte les blessures glorifiées de son sacrifice qu'il a offert pour nous. Est-ce qu'on a besoin d'une réconciliation avec Dieu? Regardons le Seigneur Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, intercédant, plein de miséricorde pour nous. Est-ce qu'on a besoin d'une nouveauté de vie, d'une force pour le suivre? De son trône céleste, le Seigneur Jésus nous envoie des ressources puissantes, même des anges, des serviteurs, qui viennent à notre aide. Et mieux encore, il envoie le Saint-Esprit qui œuvre en nous par sa puissance. Est-ce que nous sommes, comme le psalmiste, couchés sur un lit de malade, craignant la mort? Regardons vers le ciel où le Seigneur Jésus-Christ règne. Il a déjà vaincu la tombe. Il a déjà vaincu la mort en ressuscitant de manière glorieuse. Et parce que ces années n'auront pas de fin, la mort n'aura aucune emprise pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Il n'y a jamais un moment dans toute l'éternité où notre Sauveur Tout-Puissant ne règnera pas pour assurer notre vie, notre gloire. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux a appliqué cette vérité en nous exhortant à ne jamais, à aucun prix, lâcher l'Évangile. Hébreux 2, verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Le Seigneur Jésus nous a donné une application semblable, nous rappelant que par la foi en sa parole, nous l'emporterons, comme le psalmiste, sur le pire que la vie peut nous apporter. Il dit en Matthieu 7, versets 24 et 25, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus. » Les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, versets 24 et 25. Voilà ce psaume 102. Que Dieu nous aide à comprendre, à méditer ces choses, qui nous aide à les vivre, que dans nos épreuves, dans nos temps d'affliction, nous ayons à la fois la liberté de répandre notre cœur, notre plainte devant Dieu, mais que nous ne nous arrêtions pas là, comme le psalmiste, que nous méditions sur les attributs merveilleux, glorieux de Dieu, que nous soyons encouragés de voir que nous ne sommes que de passage dans ce monde, que nous nous appuyons sur lui et sur notre Seigneur Jésus-Christ jour après jour, en attendant ce jour glorieux où nous serons dans sa présence pour toujours. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.